A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Exceptionnel Shani Di Luca. Pourquoi ? Eh bien parce que pianiste d'exception, passé par le Conservatoire supérieur national de Paris, qui fait ses gammes sur des partitions d'hier avec une sonorité d'aujourd'hui. Parce qu'avec ses deux mains, elle écrit sa carrière comme si elle en avait quatre. Une paire de mitaines en direction de la musique, l'autre pétrissant la poésie. Son cœur de pianiste concertiste, connecté à Beethoven le plus souvent, n'est pas sourd. Il entend bien le chaos du monde. Son cœur, qui se produit sur les scènes du monde entier, vous offre un recueil de poèmes très singulier, intitulé « Canopée ». Cette musicienne y pose des mots verts, bleus, jaunes, qui en appellent autant à l'homme mythologique qu'à l'homme sur sa barque de migrants. Française née à Monaco, de parents sri-lankais, Shani Di Luca a un seul principe, je crois, l'incertitude. Bonjour Shani Di Luca.
Bonjour.
Ce principe d'incertitude est le tout dernier poème de votre recueil qu'on va ouvrir tout à l'heure, c'est promis, mais et je m'amuse d'avance à vous poser cette question. Quelle place a l'incertitude dans votre vie ?
Je crois que c'est une place qui est propre à tous. Disons qu'on a des rêves, des destinées et aucune certitude au fond. Et j'ai voulu terminer ce livre par le principe d'incertitude qui est en fait un principe scientifique lié à la physique quantique où on ne sait pas lorsque l'atome, la position et la vitesse de l'atome et de la particule n'est jamais définitive et définie. Et ce mystère me rend pleine d'espoir de savoir que même la science n'arrive pas à avoir une certitude du résultat. C'est aussi toute la beauté de la physique quantique et je trouve qu'elle est très proche de notre âme, du voyage de notre propre âme.
Donc vous n'êtes pas que littéraire, vous êtes aussi une scientifique, d'après ce que je comprends.
Disons que tous les éléments se relient pour moi.
Avant de vous écouter tout à l'heure au piano jouer Mendelssohn et Beethoven aussi, j'aimerais vous mettre en oreille une autre musique, c'est celle de Mallarmé, 1842-1898. Grand poète français célébré par le cinéaste Eric Rohmer, qui dans un documentaire qui date de 1968, plaçait dans la bouche d'un comédien les propos de Mallarmé, publié par l'Écho de Paris en 1891.
Nous assistons en ce moment à un spectacle vraiment extraordinaire, unique dans toute l'histoire de la poésie. Chaque poète allant dans son coin jouer sur une flûte bien à lui les airs qu'il lui plaît. Pour la première fois depuis le commencement, les poètes ne chantent plus au lutrin. Jusqu'ici, n'est-ce pas, il fallait pour s'accompagner les grandes orgues du maître officiel. Eh bien, on en a trop joué. Et on s'en est lassé. On est là du verre officiel. Le verre est partout dans la langue où il y a rythme. Et toutes les fois qu'il y a effort au style, il y a versification. D'ailleurs, en musique, la même transformation s'est produite. Aux mélodies d'autrefois, très dessinées, succède une infinité de mélodies brisées qui enrichissent le tissu sans qu'on sente la cadence aussi fortement marquée.
Elle comme langue d'amour.
Alors c'est vrai qu'on parle toujours de la langue de Molière, mais pour vous, Shani Di Luca, j'ai l'impression que la langue française, c'est peut-être la langue de Mallarmé.
Mallarmé, il y a plusieurs raisons. Chez Mallarmé, il y a une musique des mots qui est au-delà même du propos. Il y a un mystère. Et c'est la relation de Mallarmé à Debussy. Donc évidemment, ça touche mon métier. Mais Debussy et Mallarmé se rencontraient chaque semaine pour discuter de poésie, du son, du mystère. Et là, on entend d'ailleurs dans l'extrait la musique de l'après-midi d'un faune, qui est un poème de Mallarmé, où il y a cette flûte de Pan qui s'ouvre et ce faune qui va essayer de trouver les délices de la forêt. Et Nijinsky, Nureyev, voilà, ils ont dansé sur ce poème mis en musique par Debussy. Donc ça représente beaucoup de choses, non seulement une page historique et musicologique, mais aussi la beauté de la langue française.
Alors l'autre langue d'amour pour vous, Shani Di Luca, c'est la musique. Je ne sais pas si une partition de musique, ça vaut un poème pour vous, mais en tout cas, on va ouvrir nos oreilles en sol majeur. Vous écoutez interpréter « Romance sans parole », donc de Mendelssohn. Est-ce qu'il y a, vous diriez rapidement, du poète chez ce romantique allemand du 19e ?
Oui, en tout cas, l'extrait est très bien choisi de votre part, puisque Verlaine a écrit les romans sans parole après avoir entendu ces pièces que nous allons entendre de Mendelssohn. Et Verlaine a écrit qu'il ne voulait pas expliquer la musique et que la poésie ne n'explique pas, en fait. Elle nous emmène, elle nous transporte quelque part.
Thank you.
sur le pick-up dans sol majeur, les doigts de Shani Di Luca, pianiste concertiste, qui après avoir déchiffré des partitions de musique, se met donc à déchiffrer le monde avec des mots. J'ai sous les yeux votre premier recueil de poèmes, Shani. Il s'intitule « Canopée ». Pourquoi ?
Alors, pour moi, la relation de l'homme à la nature est fondamentale. Qu'elle soit de mon pays, du Sri Lanka, ou ce rapport que nous avons au monde depuis les romantiques allemands, Goethe parlait de la nature. Pour moi, la canopée, c'est le lieu, donc cette couronne au-dessus des arbres, que nous ne pouvons pas voir. C'est un lieu qui est riche d'écosystèmes, d'animaux qu'on ne retrouve que sur ce coin-là. Et c'est aussi un parcours compliqué des sous-bois, des racines de l'arbre, jusqu'à ce sommet inaccessible. Donc c'est une sorte de métaphore de notre chemin de vie en tant qu'être humain, d'aller vers une vérité, notre vérité.
Et votre vérité à vous, c'est d'avoir inscrit dans ce premier recueil un principe amoureux, je dirais, puisque vous avez marié vos deux passions.
Oui. Oui, c'était, disons, les textes donc poétiques, ça fait 20 ans que j'écris, donc ils m'ont toujours accompagnée dans un coin de ma valise, dans mes escales. Et en même temps, derrière ces textes, il y avait toujours la musique, celle de mes concerts, des musiques que j'écoute. Et j'ai voulu associer pour chaque poème une œuvre musicale qui est un coup de cœur. Et d'ailleurs, ce n'est pas que de la musique classique, il y a de la musique du monde, il y a du jazz. Et ça permet pour moi de partager aussi mon amour de la musique.
Alors on va vous suivre jusqu'en Syrie, dans l'un de vos poèmes où il est question de Tétrapile, ce monument à quatre portes, et de Janus, ce dieu romain des commencements et des fins. Clap en sol majeur sur le tétrapile de Palmyre.
P comme parole et musique.
Ces quatre portes s'ouvraient au monde, de l'aube au crépuscule, défiant les hyperboles. Des cardinaux devenus sages, des signes devenus symboles. Janus retrouva son visage jusqu'au jour où l'homme le divisa en mille. La haine creva ses yeux sans âge, cicatrice, elle défigure et éparpille. Le gardien s'enfonça dans la nuit, le tétrapile n'est plus. Ses chemins se sont effacés sous leurs pas de suie, le désert recouvre nos yeux.
شمس غابت أنوارها والكون بدا في ظلام الليل والدنيا سكتت أطيارها وكان غنى
Il faut imaginer le tétrapile de Palmyre, donc avec ses colonnes en granit rose venues d'Égypte, datant du 3e siècle et détruit en 2017 par Daesh. Ce tétrapile qui est devenu un poème, donc marié pour l'occasion à la voix d'Asmahan. Et la marieuse, c'est vous, Shani Di Luca. Pourquoi vous avez pensé à ce mariage ?
Parce que déjà, entendre cette voix de femme dans ce monde qui est le berceau de notre civilisation, je trouve que c'est un symbole fort de liberté, de beauté. Et puis il y a une nostalgie énorme aussi de cette poésie qui faisait partie de cette civilisation syrienne si riche. Et quand on voit que Daesh a détruit ce lieu qui est un témoignage de notre histoire, et penser à ce gardien qui a voulu à Palmyre cacher tout ce qu'il pouvait sauver et qui se fait lui-même assassiner, moi ça m'a bouleversée. Je me suis dit que ce sont des moments très très forts dans notre humanité, on ne peut pas laisser indifférent.
Et vous évoquez la Syrie à travers la figure de Janus.
Oui, justement, la fin, le commencement. Pour moi, Janus représente justement cette ouverture vers le monde. Et je présente Janus, c'est aussi celui qui a plusieurs visages. Et donc, je parle du visage de la beauté, de l'ouverture, mais aussi le visage de la haine. Et c'est pour ça que je parle des cicatrices qui défigurent ce visage. Celui qui commence et qui ouvre, qui réunit, est brisé par ces hommes. Et c'est aussi une symbolique qui est liée au tétrapile.
Alors il y a tout un votre monde à vous, votre monde intérieur dans ce recueil de poèmes. On passe des douleurs du monde, comme on vient de l'évoquer à l'instant, à vos émois, je dirais, artistiques. Clin d'œil à Proust, à Visconti ou à Ophélie, la trêve shakespearienne. C'est un monde très sépia en même temps.
Ah, sépia, j'avais pas pensé à ça, mais en tout cas il y a une certaine mélancolie peut-être liée à la beauté qui s'évapore. Mais je crois vraiment de façon profonde que l'homme a cette capacité de se transformer vers la beauté et vers la bonté.
Vermeer, Botticelli, Rodin, c'est-à-dire que la peinture, la sculpture, tout ça, ça tient une très grande place dans votre cœur de pianiste. Est-ce que ça vous aide vous-même à sculpter votre espace sonore intérieur ?
Mais je crois que quand on est musicien ou artiste, on se nourrit de tout, de la vie. Ça peut être un paysan que je croise lors d'un de mes voyages, et ça peut être une sculpture de Rodin quand je me balade dans ce magnifique jardin. Et Rodin dit justement qu'il n'y a pas de style juste, mais il y a la voix juste, celle qui nous appartient.
Alors pour autant, vous n'êtes pas coupé, je dirais, des douleurs contemporaines. On évoquait la Syrie à l'instant, mais vous évoquez également le requin pèlerin, vous évoquez Fukushima. Et puis, vous avez une manière bien à vous d'évoquer la question des armes aux États-Unis. Là, ça ressemble à ça.
Un coup de feu pour briser l'eau des yeux. Un coup de folie pour oublier le désaveu. La roulette russe contre les ricaneries. L'illusion du pouvoir nourrit les barbaries. L'enfant d'Hitchcock ou de Wells, l'empire au creux des mains, tourne dans la prison des stratèges, l'âme conquérante d'un invisible destin. Soumis sont les insoumis d'un soir. La larme à l'œil, Dieu s'en va.
Shani DiLuca, qui pour un sol majeur prend le train de la musique contemporaine au bras de Steve Reich, l'immense, et puis Pat Metheny, avec ce petit poème, petit entre guillemets, hein, c'est un petit bijou comme ça, un petit poème à une balle intitulé « Larme à l'œil ». La collision entre cette musique qu'on dit minimaliste et répétitive et cette thématique des armes aux États-Unis, c'était évident pour vous ?
Oui, disons que la musique de Steve Reich est teintée de cette répétition presque obsessionnelle, ce son des rails du train qui sonne, et c'était en souvenir de son voyage qu'il faisait lui entre ses parents. Et dans ce train qu'il entendait, il y avait ce souvenir aussi de ses parents qui ont été déportés, ses grands-parents. Donc il y a cette violence dans l'Amérique, et là par rapport au thème des armes, et encore tout récemment, c'est toujours d'actualité malheureusement, de se rendre compte que c'est une économie en soi, l'armement aux États-Unis, et de voir le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'en ayant plus d'armes, on se protégerait plus, alors que c'est l'inverse. C'est une sorte de revendication, et je parle de larme à l'œil comme une larme qui coule, celle du monde, et puis celle de Dieu qui observe tout cela, un Dieu imaginaire évidemment, ou même le sacré est partout pour moi de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas parler de la guerre du Yémen, des armements en Arabie Saoudite. L'armement est un sujet majeur, on parle du nucléaire, je pense qu'il y a un vrai questionnement là-dessus.
Même en vous questionnant sur ce chaos du monde, on va dire, est-ce que pour vous, la poésie, ça sert à rechercher quelque chose qui s'appellerait le beau ou l'idéal? Qu'est-ce que vous recherchez dans la poésie?
Mais déjà, j'aimerais qu'elle nous console. Quand je lis du René Char ou du Baudelaire, tout d'un coup, on se ramène à des choses profondes, à des couches invisibles qui font partie de notre âme. Et il se trouve que notre vie quotidienne nous amène à être dans l'objectif, dans l'efficace. On prend le métro, on a la télévision, on a des obligations. Et la poésie est une sorte de bulle qui nous permet d'être dans l'intemporel et dans l'éternel. C'est ce que je pense, en tout cas.
Il y a un cœur bouddhiste dans ces canopées ?
Certainement dans le rapport en tout cas à la nature, le fait que l'homme est lié fondamentalement à la nature et qu'elle ne peut trouver sens qu'en étant entre la terre et le cosmos. Ça rejoint un peu les philosophies orientales, disons.
Avant de poursuivre en seconde partie sur votre tête-à-tête avec ses origines sri-lankaises et puis ce cher Beethoven, on va s'offrir un autre poème sur les feuilles de Ravel, version Pierre Boulez, vous y teniez bien sûr. Chani Di Luca, avec Canopée.
Savoir toucher une feuille, s'y percher pour observer l'existence, canopée. L'indicible affection à celui qui écoute, la paume esselée et sans orgueil, dérobée. Hisser le crépuscule, embrasser l'écorce humide, à la cambrure de la nuque, le vent taché de Néréides, consolé. Inaccessible pastorale, où Dieu masqué se retrouve sur mon front, canopé, tu souffles l'instant, l'ombre tourne comme un affront.
Nous sommes avec Chani Di Luca sur RFI, une fille qui s'y connaît en brindille et en canopée. On ressort son piano dans 3 minutes.
A long way from home.
En sol majeur.
Dans la tête de Chani Di Luca, il y a des milliers de paysages, visages, Venise, valises, banquises, assise qu'elle est entre plusieurs petits rochers. Il y a d'abord le rocher de Monaco où elle a grandi. Il y a ensuite cette île du sous-continent indien, le Sri Lanka, pays des ancêtres, pays des origines. Et puis enfin ce rocher tout à fait particulier en forme de tabouret, c'est un tabouret de piano qui l'a fait dériver au pays du répertoire allemand qu'elle aime tant. Concertiste pianiste qui se produit sur les scènes du monde entier, Chani Di Luca vient de s'offrir un plaisir poétique, celui de la canopée. Ah oui, il fallait être là en première partie. Vous avez déjà joué à Venise ?
Oui, j'ai joué à la Fenice, qui est ce lieu mythique qui a été brûlé 2 fois et en même temps tout près des canaux, et c'est très émouvant de jouer dans ce lieu historique, oui.
Ça pourrait être un autre de vos rochers, Venise?
Disons que c'est un symbole pour moi de l'ouverture de l'Europe vers l'Orient. C'était les routes qui étaient prises à l'époque. Et quand je vais à Venise, je pense que c'est le cas pour tout le monde, il y a ce côté intemporel d'arriver dans une autre époque, le silence des canaux. Et je pense à ce film qui m'a beaucoup marqué de Visconti qui est mort à Venise. Et cette quête de la beauté où il décide de rester, affronter la peste pour voir la beauté d'un coucher de soleil et d'un jeune homme.
Chani à Venise, c'est presque un titre ça. Ça veut dire quoi, Chani ?
Alors, c'est une fleur inaccessible au Sri Lanka, mais c'est aussi une divinité hindouiste. Mais mes parents sont du Sri Lanka, donc je suis plutôt du côté de la fleur inaccessible.
Alors, je l'ai dit, il y a du monde dans votre tête de musicienne-poète. Il y a du monde qui parle, qui joue, qui piaffe.
Pour écrire un seul vers, il faut avoir vu beaucoup de villes, d'hommes et de choses. Il faut connaître les animaux. Il faut sentir comment volent les oiseaux. Et savoir quels mouvements font les petites fleurs en s'ouvrant le matin. Il faut pouvoir repenser à des chemins dans des régions inconnues, à des rencontres inattendues, à des départs que l'on voyait longtemps approcher, à des jours d'enfance dont le souvenir ne s'est pas encore éclairci.
J'avoue une chose que je ne m'aime pas, ni comme femme, ni comme beauté, ni comme voix. Mais je me détache assez pour dire si je suis efficace comme actrice, comme expression. Et alors donc, je ne peux pas dire que je m'aime même dans la vie de tous les jours. Mais je ne peux pas, et ça ne me regarde pas, que je m'aime. Ce que c'est que j'espère que le public va aimer et va comprendre mon interprétation. C'est, ça, c'est le nécessaire.
Un ersatz d'inventeur sonore pour un sol majeur. Alors, il faut nous expliquer tout ça. Shani Di Luca a commencé par ce petit merle-là, perché sur la haute branche de cet inventaire.
Évidemment, le merle, c'est l'oiseau. L'oiseau, c'est ce chant qui existe depuis la nuit des temps, qui est toujours là autour de nous. Et on n'imagine pas que ce sont les premiers témoignages de la musique et que nous sommes, nous musiciens, en train de nous rapprocher. Quand on écoute Schubert, c'est de pouvoir se rapprocher de l'oiseau.
D'ailleurs, vous avez composé un album, tout un album, hein, intitulé La Symphonie des oiseaux.
Tout à fait, c'était une expérience fantastique avec deux chanteurs d'oiseaux, Jean Boucaud et Johnny Rass. C'est des copains d'enfance qui imitent les oiseaux. Et on a marié la musique classique avec une violoniste, Geneviève Laurenceau, et moi au piano. Tout un album d'extraits de musique classique ponctué de chants d'oiseaux, et on se rend compte à quel point les compositeurs écoutaient les oiseaux, que ce soit Beethoven dans sa symphonie pastorale, soit Messiaen évidemment, ou Ravel. L'oiseau fait partie du paysage d'un musicien.
Alors il y a un oiseau qui vous a pas échappé, c'est Laurent Terzieff lorsqu'il lit Rilke.
Oui, Rilke fait partie de ces poètes qui m'ont marqué.
Vous avez failli dire compositeur, oui, c'est pas grave.
D'ailleurs, je fais souvent des lapsus entre compositeur, livre. Mais ce sont, ils composent de la musique des mots, évidemment. D'ailleurs, j'ai terminé mon recueil de poèmes avec une citation de Rilke tirée des Sonnets d'Orphée. Et là, Terzieff, j'ai eu la chance de l'entendre à Monaco quand j'étais une adolescente. Et c'est vrai que Terzieff a cette sensibilité, cette manière de dire les mots comme s'il improvisé, comme s'il le vivait lui-même. Il est traversé par la poésie et par une humanité très fragile. C'est quelqu'un qui risque à chaque mot. Et c'est vrai que cette récitation de ce premier vers, d'où vient ce premier vers de l'enfance, de souvenirs, de sons, est merveilleusement dite par Terzieff.
Et d'où vient ce sitar, alors, avec ce maître du sitar qui a appris auprès d'un gourou l'instrument, la vérité de cet instrument, avant d'accueillir ensuite dans son monde un Beatles, un Yehudi Menuhin ou un Philip Glass? Je parle bien sûr de Ravi Shankar. Il a quelle place alors dans votre panthéon à vous?
Il a toujours une place prégnante, puisque étant entre deux cultures, oui, sri-lankaise et monégasque au départ, mais finalement je me sens européenne et je suis française, et je suis très fière de défendre les idéaux des Lumières. Mais mon identité, c'était un vrai questionnement, un vrai mystère. Et quand j'écoute du sitar, des ragas indiens, ces improvisations qui parlent des ragas du soir, de la mousson connectée aux éléments, je me suis rendu compte que la forme d'un raga, c'est la même forme qu'une forme sonate chez Beethoven. C'est la même incarnation de l'âme qui voyage. Et j'ai toujours été bercée entre ces deux mondes qui finalement recherchent la même vérité.
Ça a permis de réunir en vous vos deux moitiés, la moitié orientale et la moitié occidentale.
Exactement, je crois que, en tout cas, en étant métissée, même si mes deux parents sont Sri Lankais, je sens que ma culture est métissée et je trouve que le monde s'ouvre et c'est merveilleux, on est de plus en plus métissée et la vraie question de savoir qui on est vraiment. Et cette quête d'identité, je l'ai trouvée par la musique, par la poésie. La langue française n'était pas ma langue naturelle, mes parents ne parlaient pas vraiment bien le français. Mais le fait de découvrir une langue, de s'exprimer, de créer sa propre identité, je trouve que c'est une des beautés de l'humanité.
À propos de beauté, la Kalas est l'authentique fragilité du temps qui passe. C'est ce que vous écrivez dans un poème intitulé « Kalas et les joueurs d'échecs ». Alors, une Kalas qui chante, est-ce que ça vaut une Kalas qui parle ?
Quand on l'entend, c'est vrai qu'elle est bouleversante de vulnérabilité. On sent quelqu'un qui est meurtri et qui donne tout pour son chant, qui donne tout pour la vérité de la musique. Et si au moment où elle meurt dans la Tosca, sa voix se casse, elle répondra que comment est-ce qu'on peut avoir la voix belle quand on meurt. Et ce poème, je l'ai écrit, c'était très étrange, c'était un soir à Rome, je jouais là-bas, et il y avait ces sortes de groupes de vieilles personnes qui jouaient aux échecs, avec des petits bérets italiens, et ils avaient un petit poste de radio, ils écoutaient la Kalas. Et c'est le temps qui passe, et la Kalas aurait aimé, je crois, cette scène.
Comme je me souviens.
Je me souviens de ces matins, à l'aube, sous les odeurs de mousson au Sri Lanka, entendre mon grand-père commencer les prières bouddhistes, le pirit, et ces prières qui résonnent dans toute la ville de Colombo, dans les temples, à travers les haut-parleurs. Et quand on est enfant, qu'on sort d'un Occident protégé et qu'on arrive dans cette poésie, dans la lumière de l'aube, ce sont des souvenirs qui ne vous quittent jamais.
Vous êtes née donc au bord de la Méditerranée, sur ce petit rocher monégasque. Est-ce que le bouddhisme avait sa place dans cette vie surprotégée ?
Je dirais plus que jamais, puisque je suis née là-bas un peu par hasard. Mon père était cuisinier, il arrivait pour ouvrir un hôtel. Mes parents n'étaient pas du tout dans ce luxe qu'on pourrait avoir de l'image de Monaco. Et pourtant, je dois tout à Monaco, puisque la princesse Grace a permis à tous les enfants de Monaco de suivre des tests et prendre les meilleurs pour faire de la musique classique. Donc j'ai commencé comme cela. Et c'est vrai que ce matérialisme, cette sorte de prison dorée, on pourrait dire en quelque sorte, puisque tout est beau, tout est parfait, nous déconnecte aussi d'une certaine réalité. Et ma chance, c'est d'avoir vraiment existé et vécu entre ces deux mondes, le Sri Lanka où j'allais chaque année et Monaco. Donc être bouddhiste me permettait de me rappeler à ma condition humble d'être humain, tout simplement.
Vous parlez de culture monégasque, ça existe ?
Alors, disons que la culture monégasque existe dans le sens où, déjà, c'est une partie de l'Italie, on est entre l'Italie et la France, il y a un patois, on est dans le sud quand même. Et puis, quand je parle de culture monégasque, je pense au début du XXe siècle où Stravinsky, Debussy, Ravel, Diaghilev, tout le monde était à Monaco. Vraiment.
C'est vraiment hier, ça.
Voilà, mais justement, la famille princière, la princesse Grace et maintenant la princesse Caroline et le prince Albert, qui m'ont suivi parce qu'on est très peu de petits de ces écoles à avoir fait carrière. Ils font tout pour que la culture rayonne, justement. C'est un lieu aussi où les plus grands, que ce soit dans l'écriture, la danse ou la musique, se retrouvent à Monaco.
Vous savez quoi de vos ancêtres, vous, Chani Di Luca ?
Disons que mon grand-père, du côté de mon père, était un grand politicien, une caste très importante au Sri Lanka. Et du côté de ma mère, c'était aussi une caste qui était une grande caste, mais mon grand-père était tailleur. Donc j'ai eu vraiment une dualité de mes ancêtres et qui est merveilleuse. Et d'un côté, du côté de ma mère, tous les frères et sœurs sont mariés avec d'autres religions. Donc dans ma famille, j'ai des hindouistes, des chrétiens, des musulmans. Donc en fait, des bouddhistes, bien sûr. Et en fait, toutes les religions. Je trouve ça magnifique de pouvoir fêter les religions. Et du côté de mon père, il est né sous la colonisation britannique. Donc mon père, sa première langue, c'est l'anglais. Et il y a cette influence aussi de la culture britannique du côté de mon père. Donc c'est un mélange assez savoureux de toutes ces influences.
Et comment il est tombé dans le chaudron de la cuisine, justement, votre père ?
Alors c'est une aventure un peu folle, puisque mon père était voué à être biochimiste. Ses frères sont dans la politique. Mais mon père voulait peindre. C'était sa passion. Mais sauf que dans ma famille un peu conservatrice, art artiste n'était pas reconnu. Et donc mon père a...
J'aime bien comme vous dites ça avec votre col Claudine autour du cou. beaucoup.
Mais disons qu'en tout cas, mon père a voulu suivre son rêve et quitter ce confort du Sri Lanka. Et il est allé à Zurich pour étudier la peinture en Suisse. Voilà. Et le seul moyen pour lui de gagner sa vie, alors qu'il avait un vrai confort avant, et là il repartait à zéro, c'était à 19 ans de faire une école de cuisine, les fameuses écoles de cuisine en Suisse. Et là, il a tout gagné. Il a gagné les prix Escoffier, il est devenu grand chef au Hilton, il est venu à Monaco. Il était à New York, à Berlin, en Israël. Et c'est vraiment, son métier a été la cuisine, comme chef, grand chef cuisinier.
De quelle gastronomie ?
Alors, il était créateur de diverses influences, donc sa cuisine, je dirais que c'est vraiment européen avant tout, de l'école donc suisse, mais en même temps avec une influence indienne, sri-lankaise, d'épices, et il n'a jamais quitté la peinture, et maintenant qu'il est à la retraite, il ne fait que peindre, il n'a jamais cessé.
Quand on a des grands-parents qui, vous l'avez dit plusieurs fois, sont un peu politiciens, enfin du côté paternel, hein, on était impliqués justement, j'imagine qu'on est un peu plus armé que la moyenne nationale monégasque sur l'histoire, celle de la colonisation indienne et sri-lankaise par les Britanniques. Est-ce que ça fait partie de votre histoire ?
Oui, pour moi, la colonisation britannique a été aussi décisive au Sri Lanka puisqu'elle a induit cette guerre civile qui a eu lieu au Sri Lanka après donc l'indépendance, après 48. Toute cette fin du siècle, il y a eu cette guerre entre les Tamouls et les Cingalais qui m'a beaucoup affectée. Quand j'allais au Sri Lanka, il y avait des militaires, des contrôles, des mitraillettes, il y avait des kamikazes. Alors je n'ai jamais subi ça, mais j'ai toujours senti la tension de la guerre et c'est aussi le fruit de ces empires qui ont marqué d'une empreinte indélébile et qui ont séparé les peuples, puisque les Tamouls et les Cingalais ont toujours cohabité. C'est une proximité très très grande. Donc il y a du bon, certainement un petit peu, mais il y a aussi, pour moi aussi, cette incohérence. Aujourd'hui, quand on est dans le Commonwealth, qui est le cas du Sri Lanka, c'est difficile d'avoir un visa pour aller en Angleterre, par exemple. C'est une aberration. On a défendu pendant la Seconde Guerre mondiale les Indiens comme les Sénégalais, tirailleurs sénégalais ont défendu la France. Il y a eu cette implication des colonies pour protéger ces pays-là et aujourd'hui, il n'y a pas de reconnaissance.
Aimez-vous Brahms ? Ça, c'est pas une question. Je me demandais si vous aviez commis un poème sur la question de l'identité, justement, dans votre recueil Canopée. Chani Di Luca, et la réponse se trouve page 79 avec un poème intitulé La Gitane.
La gitane se promène au fil du temps, vacille sur la flamme, les yeux noircis par le vent, d'un immortel pays portant son enfant, l'étranger comme un éternel amant. Meurtri par ses rêves aux doux contours, le vernis de sa peau parfume l'histoire. Nomade de toujours, espoir d'un jour, elle dépose ses lèvres sur notre miroir.
Une petite parenthèse en sol majeur sur RFI. S'il vous arrive de jouer, j'en suis sûre, c'est déjà arrivé, Chani Di Luca, de jouer une partition de Brahms chez vous au Sri Lanka, dans la famille, quelle est la réaction ?
La réaction est réjouissante, puisque depuis que j'ai l'âge de 12 ans, je joue de la musique classique à ma famille, souvent qui n'ont jamais entendu Mozart, ni Chopin, ni Brahms. Et de voir que ça leur parle, c'est une ode. J'ai choisi Brahms pour la gitane, puisqu'il s'inspirait de ces musiciens hongrois qui croisaient dans la rue. C'est souvent issu d'une culture populaire, en fait, que ce soit Brahms, Schubert, même Mozart. Ils écoutaient ces musiciens dans la rue, et à partir de cette essence folklorique, ils composaient. Et donc, quand on joue cette musique-là pour ma famille sri-lankaise ou mes amis, ça leur touche, puisqu'il y a cette universalité de la musique qui vient du folklore et qui est transformée en musique dite savante, alors qu'en fait elle est accessible.
Ils applaudissent ?
Parfois non, c'est ça qui est assez troublant, parce que le langage du corps est différent selon les pays. Et en Inde, il m'est arrivé de jouer, j'avais fait un récital dans un village au fin fond de l'Inde du Nord, et là, à la fin du concert, ils n'applaudissaient pas. Et j'étais un peu troublée, et j'ai dû leur dire que le concert était terminé, et ils n'applaudissaient toujours pas. Et donc j'ai quitté la scène, et ils sont venus un par un, me disant qu'en fait le silence était un signe de respect et de communion avec la musique, et qu'ils ne voyaient pas pourquoi ils applaudiraient en criant alors qu'ils étaient rentrés en eux-mêmes. Et je trouve ça bouleversant de se dire qu'on n'est pas obligé de s'exprimer tous de la même manière.
Shani Di Luca, donc, qui adore marier les mots et les partitions, Brahms pour servir votre gitane, avec cette question, est-ce que vous l'avez trouvé finalement, votre sol majeur ?
Alors, je ne sais pas, je crois que je cherche ce sol toujours, et la nomade, c'est nous-mêmes, nous avons toujours été nomades, à la nuit des temps, les hommes voyageaient pour chercher leur territoire, leur sol, et aujourd'hui on parle de réfugiés, on parle de migrants, et c'est pourtant un mouvement perpétuel, et ce sont des respirations douloureuses qui sont issues souvent de conflits, des changements climatiques qui vont arriver, qui font que le voyage est une chose évidente chez l'homme, depuis toujours.
C'est pour ça que vous vous êtes retrouvée sur la fameuse route de Jack Kerouac ?
Oui, c'est toujours le même mouvement. Finalement, la seule chose qui ne change pas, c'est que nous sommes en mouvement. Donc Kerouac, par exemple, cherche le sens de sa vie le jour où son père décède. Il décide de traverser la route 66 d'est en ouest, à la rencontre des poètes, des prostituées, des fermiers, des intellectuels, pour trouver un sens à sa vie. Et le voyage fait partie de notre identité depuis la nuit des temps.
J'ai vu que l'Afrique était au cœur de votre canopée. Vous célébrez les ciels d'Afrique, que vous mariez à Billie Holiday, évidemment, avec Strange Fruit. Vous évoquez les femmes qui travaillent le beurre de karité au Burkina Faso, les maçons de Tombouctou. Comment vous expliquez que cette terre d'Afrique est une terre d'inspiration poétique pour vous ?
Pour moi, j'essaie d'avoir une sorte de loupe, comme je dirais, comme Vermeer, qui observe de loin. Et le monde, la Terre est née de ce continent africain. Nous sommes issus tous de ce continent africain, qui est ce continent unique au départ et qui s'est dispersé. Donc là, je parle de géologie. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on écoute la géologie et quand on écoute les strates, on écoute aussi l'histoire de notre humanité qui n'est pas longue. Et l'Afrique, pour moi, représente tout cela, c'est-à-dire l'origine de l'homme. Et c'est pour ça que pour moi, ça m'émeut de voir que les maçons de Tombouctou, qui ont cette tradition par rapport à l'islam, ont reconstruit les mausolées qui ont été détruits par Daesh. Ça m'émeut de voir que les femmes du Burkina Faso qui travaillent le beurre du karité mettent tout leur argent pour éduquer leurs enfants. Et les ciels d'Afrique, c'est ces ciels qui sont éternels, ces couleurs bleutées, ces savanes étoilées, et puis ces animaux ancestraux. Donc pour moi, c'est une sorte d'origine de notre terre, l'Afrique.
Shani Di Luca, vous êtes une artiste hors norme. Je l'ai lu, mais je l'entends. On l'entend en sol majeur. Alors, c'est quoi, justement, un artiste ? Réponse du grand Jacques, monsieur Brel.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Et dans les chanteurs, il y a des chanteurs qui ont mal aux autres et des chanteurs qui n'ont pas mal aux autres. Et puis, il y a aussi des gens qui ont du talent et des gens qui n'ont pas de talent. Alors, j'essaie de savoir ce que c'était que le talent. Et je crois que le talent, c'est avoir envie de faire quelque chose. Mais ce n'est que cela. Et après, il y a toute une vie à user pour essayer de faire ce quelque chose.
Et comme être ou ne pas être.
Être un artiste, donc, c'est être quelqu'un qui a mal aux autres. Vous êtes d'accord avec cette définition, Shani Di Luca ?
Oui, en tout cas, elle me définit, et la preuve est ce recueil de poèmes. Je crois que c'est une empathie. On ne peut pas s'arracher de la communauté. quand on est artiste, on a l'impression qu'on est dans notre tour de Babel à faire notre poésie, notre musique, mais en fait, on est à l'écoute du monde plus que jamais. Et l'artiste, humblement, essaye soit de témoigner, soit de consoler par un accès à la beauté.
On peut être artiste et bouddhiste. Parce qu'être artiste, c'est être dans l'ego, et être bouddhiste, a priori, c'est justement ne pas être dans l'ego.
Mais pour moi, être artiste, c'est abolir son ego. D'ailleurs, on a entendu Callas, qui ne parle pas d'elle. Au contraire, elle a une très piètre opinion d'elle-même. On entend Brel, qui ne parle que des autres. Et quand il parle de talent, et c'est merveilleux, il dit que c'est avoir envie. Ça veut dire que tout le monde est talentueux. Dès lors qu'on a envie, que ce soit un petit enfant, une grand-mère, on a le talent de vivre. Et être artiste, c'est avoir le talent de vivre et de le partager.
Votre rapport à la musique et aux mots, il peut se comprendre, je dirais encore une fois, en passant par Beethoven, puisque vous êtes un peu docteur S en, en concerto de Beethoven, Shani Di Luca. On va doublement vous écouter, nous interpréter son concerto numéro 2 pour piano, le troisième mouvement, et nous lire son testament d'Eligenstadt. Dites-nous un mot de ce testament.
Alors le destin de Beethoven est peut-être un destin qui est le plus proche de notre humanité. Beethoven, évidemment, on sait cette maladie qui l'a frappé à l'âge de 20 ans, cette surdité qui s'est accentuée. Et puis à l'âge de 30 ans, il a écrit ce testament d'Eligenstadt pour annoncer que sa surdité allait être fatale et qu'il voulait mettre fin à ses jours, puisqu'il n'y a pas pire douleur pour un musicien que de ne plus entendre sa musique. Et pourtant, c'est un immense espoir, puisqu'il croit en l'homme, il croit en la beauté, il sait que la beauté peut élever les hommes. Et cet handicap va devenir en fait une force. Cette souffrance va devenir une force créatrice où il va dépasser le langage qu'il n'entendra plus. Il imaginera des sons qui n'existent pas. Et encore aujourd'hui, il est d'une grande modernité. Et ce n'est pas par hasard aussi qu'il est l'hymne européen avec l'hymne pour la fraternité. Ô vous, homme qui me tenez pour haineux, obstiné, ou qui me dites misanthrope, comme vous vous méprenez sur moi. Vous ignorez la cause secrète de ce qui vous semble ainsi, mon cœur et mon caractère incliné dès l'enfance au tendre sentiment de la bienveillance. Même l'accomplissement de grandes actions, j'y ai toujours été disposé. Mais considérez seulement que depuis 6 ans, un état déplorable m'infeste, aggravé par des médecins insensés et trompé d'année en année dans son espoir d'amélioration. Finalement, condamné à la perspective d'un mal durable, dont la guérison peut durer des années ou même être tout à fait impossible, alors que j'étais née avec un tempérament fougueux, plein de vie, prédisposé même aux distractions offertes par la société, j'ai dû tôt m'isoler, mener ma vie dans la solitude. C'est l'art et seulement lui qui m'a retenue. Il me semblait impossible de quitter le monde avant d'avoir fait naître tout ce pour quoi je me sentais disposée. Et c'est ainsi que j'ai mené cette vie misérable, vraiment misérable. Dieu, tu vois de là-haut mon cœur, tu le connais. Tu sais que l'amour des hommes et un penchant à faire le bien y habite. Ô homme!
À lire aux éditions Art3, Canopée, votre premier recueil de poèmes, Shani Di Luca, avec des calligraphies de Marika Burman. Et puis, vous partez en tournée avec Brahms, notamment le 16 mars à Vienne, le 25 mars à Lille, avec Beethoven cette fois, le 23 mars en Suisse, le 5 avril à Rio et le 13 avril en Avignon. La suite sur votre site, c'est ce qu'on dit. Thank you. En sol majeur avec Facebook, Twitter et en podcast sur notre application Pure Radio et puis derrière votre poste chaque samedi, chaque dimanche à 14h10 temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve demain avec Hassan Kassi Kouyaté. À demain.